RMC, le Super Football Show, 21h-23h, c'est l'After Foot, Christophe Plenet.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'After Foot, la seule émission qui voit double et que vous pouvez donc écouter sur RMC, mais également écouter et regarder sur BFM Sport, l'After, je le disais, qui prend ses quartiers d'été avec des horaires en juillet de 21h à 23h pour vous accompagner ce soir du lourd, du très très lourd même, et je ne parle pas de leur poids. Le premier est international camerounais, c'est un lion, il est indomptable, Samuel Ipoa, bonsoir.
Je sais que tu parles de moi.
Non, mais, bien pendu, trop souvent, mais souvent quand même également.
Ouais,
à très bon escient, il sait lui aussi rugir
lourd,
quand il le faut. François Manon. Ouais.
Bonsoir. Bonsoir les amis, bonsoir. Bon, il fait des bons lancements, Christophe Plenet. Hein.
Il vanne, mais après il te dit qu'en fait non, mais il vanne pas.
Je vous kiffe les amis. Et un troisième larron ce soir, un troisième qui a un physique de grimpeur, spécialiste de Paris Sportif. C'est l'une des voix de RMC. Il vous a régalé pendant la Coupe du Monde. Il va nous parler ce soir de Ligue 2. Benoît Boutron, bonsoir.
Salut Christophe, salut à tous. Je suis content d'amener un peu de cheveux dans cette émission.
Ouais, c'est vrai que ça manque un peu. Tout va bien les garçons, prêts pour deux heures de folie, de régalade, d'infos et de prise de bec un petit peu. On risque de ne pas être d'accord ce soir.
Ah, certainement.
On va voir ça. On est là, nous, naturels. Hein, on est prêts. Écoute, s'il n'y a pas prise de bec, ça peut être une très bonne émission aussi. Hein.
Si l'arbitre est bon, le match peut être bon.
Hein. On va essayer ça. Allez, vous êtes sur RMC, vous êtes au bon endroit, au sommaire de l'after ce soir. Bordeaux et M6 qui a passé une nouvelle étape clé dans le processus de la vente du club. Olivier Giroud et Stéphane Guivard sont-ils des points communs à part être champion du monde sans avoir marqué le moindre but? Ce sera l'avis tranché de François Manardo. À 21h20, le ballon d'or doit-il nécessairement revenir à une star ou peut-il récompenser un Grégario, un joueur de devoir? Ce sera cette fois l'avis tranché de Samuel Ipoa. À 21h45, la Ligue 2 avec les résultats complets de la première journée. Et oui, c'est déjà reparti en Ligue 2. On verra ça avec Benoît. À 22h, on ouvrira un beau débat sur l'AS Saint-Etienne et sur son entraîneur. Est-ce que le druide Jean-Louis Gasset a la bonne potion pour les Verts? On tentera tous ensemble de répondre à cette question. À 22h20, le Mercato Show avec Mélanie Ferreira, les infos du jour, sans oublier le quiz, tout ça et plus encore. C'est tout de suite et c'est dans l'After Foot. On est ensemble jusqu'à 23h. On vous attend au 32-16 et sur Twitter avec le hashtag RMC Live pour participer à l'émission. Benoît, on démarre avec la Ligue 2, la première journée donc du championnat de France de Ligue 2, et c'est reparti en ce qui concerne les secondes périodes.
Effectivement, début des secondes périodes, on vous rappelle la surprise pour l'instant, c'est Valenciennes qui mène déjà 3-1 face à la JOCR, et encore il y avait 3-0 avant que Aloé ne réduise l'écart. Il a marqué contre son camp le défenseur valenciennois. 1-0 pour Lens à Orléans.
Aïe.
1-0, et oui, ça fait mal, pour 3 sur la pelouse de l'AC Ajaccio. 1-0 pour le Paris FC sur la pelouse du Gazélec Ajaccio. Ça va mal pour les club ajaxien. La surprise, c'est également Béziers, le promu, qui n'a jamais joué en Ligue 2, qui mène 1-0 sur la pelouse de Nancy. 0-0 toujours entre le Red Star, et non, le Red Star qui vient à l'instant d'ouvrir le score, tiens, face à Niort. 1-0, donc ça se joue à Beauvais, ce match entre le Red Star et Niort. 0-0 entre Clermont et Châteauroux, et 0-0 également entre Grenoble et l'UFC Sochaux.
Je crois que c'est Niort, hein, Benoît.
Ah oui, c'est Niort, effectivement.
À Beauvais face au Red Star.
Je crois.
On reparlera bien évidemment de la Ligue 2 avec les résultats complets tout au long de cette émission. Mais on démarre l'after par l'information de ce vendredi 27 juillet. Elle concerne la vente des Girondins de Bordeaux, M6, je le disais, qui est entrée en négociation exclusive avec le fonds américain GACP, comprenez General American Capital Partners, M6 propriétaire des Girondins de Bordeaux depuis 1999, donc qui franchit une étape clé dans ce processus de la vente du club. Pour que la vente aboutisse, sachez que toutes les parties concernées doivent trouver un accord et achever la phase de closing où on procédera à la cession-acquisition. Mais pour nous en parler, on va rejoindre notre correspondant en Gironde, c'est Nicolas Paolorsi. Salut Nico, explique-nous un petit peu ce qui s'est passé du côté du Haillan aujourd'hui.
Ça a été assez mouvementé du côté du Haillan, mais comme depuis le début de cette intersaison qui est vraiment spéciale à Bordeaux, ce qui s'est passé, c'est que Nicolas de Taverneau était présent avec les dirigeants girondins et qu'il s'est expliqué avec les salariés. Il a convoqué l'ensemble des salariés du Haillan pour leur signifier que ça y est, Bordeaux allait changer de propriétaire et que les Girondins de Bordeaux allaient passer sous pavillon américain. Alors, Ensuite, il y a eu un communiqué de M6. Tu as bien parlé de négociations exclusives à 100% pour le moment. Officiellement, les Girondins ne sont pas encore totalement vendus, mais selon nos informations, le processus de vente ira à son terme. Il reste 2-3 petites clauses à valider. Il y a un conseil, notamment devant Bordeaux Métropole, dont le président est Alain Juppé, maire de Bordeaux, mais également président de Bordeaux Métropole, où il y aura un vote dans lequel, eh ben, les membres de ce conseil d'administration vont décider si CP, le fonds d'investissement américain a bien toutes les garanties nécessaires pour reprendre les Girondins de Bordeaux. Mais ça fait quelques temps qu'il y a des négociations entre M6, également avec la mairie et la société qui gère le match Mutatlantique. Donc on se doute que si M6 et Nicolas de Taverne ont communiqué cet après-midi, c'est parce que toutes les garanties sont nécessaires et sont réunies, surtout pour que les Girondins de Bordeaux changent de propriétaire. C'était une ambiance assez particulière, pas beaucoup de supporters lors de l'entraînement. On n'a pas vu Gustavo Poyet qui est sorti sur le terrain. Il est resté avec ses joueurs en soins qui sont rentrés de Lettonie hier après leur victoire au deuxième tour de Ligue Europa. Donc c'était une ambiance assez particulière, mais les supporters, eux, et ben, étaient plutôt optimistes, et c'est vrai que c'est surprenant. On était plutôt contents de voir un nouvel investisseur comme l'Olympique de Marseille. Voilà, on se dit que peut-être Bordeaux va pouvoir se raccrocher au top 5 de la Ligue 1 qu'il avait un petit peu perdu de vue ces dernières saisons.
François, ton avis, donc on accélère du côté de Bordeaux, mais rien n'est fait, hein, on va le rappeler.
Ouais, au mois d'octobre, session définitive au mois d'octobre, c'est ce que confiait Nicolas de Taverneau. Voilà. Et d'ici là, c'est important de le préciser, ce sont les derniers échos qu'on a réussi à collecter ce soir. C'est bien M6 qui va gérer le club jusqu'à ce mois d'octobre. C'est-à-dire s'il y a des achats ou des ventes, c'est M6 qui va dépenser ou qui va récupérer l'argent des transferts. Et c'était un petit peu le flou depuis quelques temps, parce qu'on se demandait si les Américains avaient vraiment la mainmise sur le club, si c'est ce qui bloquait les transferts. Là, en tout cas, c'est clair, session définitive au mois d'octobre, et entre-temps, il y a une phase de transition dans laquelle ce sera bien M6 qui gère les Girondins.
Non, si le marché est réussi, tu nous dis, et on comprend de toute façon que ce sera grâce à la gestion des Girondins version M6, et si le marché est raté, ce sera toujours pour la gueule d'M6.
Exactement.
Ouais. Ils sont pas cons ces Américains, hein. Ils sont forts. Hein. Non, moi, d'abord, il faut les laisser arriver, évidemment. Hein. Je serais mal placé, moi le premier, pour dire on les connaît pas, attention, ça peut être des cache-cars. Non, non, absolument pas. Moi, je pense que il faut les laisser s'installer en Gironde et prendre possession, évidemment, des Girondins de Bordeaux, qui est pas n'importe quel club hein, dans le paysage français, faut-il le rappeler. Après, il y a juste une chose auquel je songe également, c'est que quand un Franck McCourt vient à Marseille, c'est un passionné de sport, il l'a prouvé, on le sait, et puis comme il est passionné et qu'il est aussi homme d'affaires accessoirement, il sait que quand on met de l'argent dans le sport et dans le foot de surcroît, on en perd. Et on en perd beaucoup, sauf quand tu t'appelles le Real Madrid, Barcelone, Manchester United. Donc 99% des autres clubs, quand ils ont des mécènes ou des investisseurs comme ça, ils perdent de l'argent, mais c'est leur danseuse. Un fonds de pension, c'est pas des gens qui rigolent en général. C'est des gens qui sont là pour faire du business. Et je pense que, encore une fois, sauf quelques clubs que j'ai cités, mais j'en oublie forcément, le Paris Saint-Germain est dans le coup également, Manchester City maintenant, mais c'est que t'en perds de l'argent. Et tu vas certainement en perdre beaucoup avant que tu puisses commencer à espérer en gagner un petit peu. C'est ça, moi, sur lequel j'ai quelques réserves. Voilà, simplement, mais j'insiste, mon idée première, c'est de dire, venez, installez-vous, c'est une région magnifique, c'est un club qui a une histoire surtout exceptionnelle. Il faut un petit peu redorer le blason parce que le passage d'M6, ma foi, oui, une Coupe de France, un titre de champion, si j'oublie rien ni personne, un quart de finale de Champions League, contre un autre club français d'ailleurs, c'était l'Olympique Lyonnais. Après, ça n'a pas non plus laissé une grande trace, ce règne, cette ère M6.
Bah en tout cas ça devient la mode hein. Maintenant ça fait le deuxième américain qui vient pour le football. Maintenant il faut savoir, comme le dit François, il faut les laisser le temps de s'installer, de connaître un peu la région, savoir est-ce qu'ils sont vraiment connaisseurs dans le milieu du football, ouais. Parce que le football est quand même un milieu assez particulier, comme vient de le dire François. L'oseille, tu t'en perds beaucoup, mais t'es pas sûr d'en gagner. Donc voilà, il faut savoir aussi, c'est important de savoir leur discours, prochainement le discours qu'ils vont devoir donner aux membres du club, aux joueurs, comment ils vont pouvoir rassurer Gustavo Poyet, qui en a énormément besoin d'être rassuré. Donc voilà, il y a encore des incertitudes, mais en tout cas, on va leur souhaiter quand même la bienvenue et bon courage à Bordeaux.
Juste, messieurs, quelques précisions pour et quelques réponses à vos questions. Sur les modalités de l'avance, 70 millions, c'est le prix que va donner le fonds d'investissement à M6 pour acquérir le club. Et GICP a promis d'investir 80 millions d'euros sur les 3 prochaines années. Et puis, vous parliez surtout de ce qui allait se passer au niveau
80
sportif.
80 millions, excuse-moi, sur le marché des transferts ou...
Alors, non, ils ont pas précisé. Ils ont parlé de 80 millions. Pour l'instant, c'est les seules infos qu'on a collectées. On ne sait pas si c'est vraiment injecté dans le club ou si c'est uniquement sur le marché des transferts. Ça, c'est encore assez flou. Et, oui. Et vous parliez de l'entourage autour de ce fonds d'investissement. Ils ont essayé de s'entourer de quelques personnalités du foot européen. Je vais vous citer quelques noms. Il y a Hugo Varela, qui est un agent de joueur. Tony Munoz, ancien directeur sportif de Retafe. Yann Herr, ancien directeur général de Liverpool. Il y a un ancien entraîneur de Porto. Il y a le chef de recrutement de Leicester, qui fait partie de ce fonds d'investissement et du pool de conseillers qui sont autour de Joseph Da Grossa. C'est le président de ce fonds d'investissement. Donc voilà. Ils essayent quand même de s'intégrer de cette mentalité du foot européen, parce que on parlait de Frank McCourt. Lui, c'était un fan de sport. Il avait déjà investi dans une franchise, les Dodgers à Los Angeles. Joseph Da Grossa, oui. Il a jamais investi, il a pas mis le moindre copec dans un club de sport, que ce soit aux États-Unis ou en Europe.
Merci beaucoup à Nicolas Paul Orsi d'avoir été avec nous dans l'after. On te retrouvera très vite sur les antennes de
par rapport à ce que disait Nicolas, pardon Christophe, ça fait un peu plus de 26 millions d'euros par an hein, à investir.
Ouais, non.
C'est pas grand chose.
C'est pas énorme, ouais. Il peut pas te gargariser avec ça.
Hein. Ouais. Par rapport à ce qu'il a rajouté, j'aurais voulu entendre qu'il y a des anciens bordelais. Je vois que dans la liste qu'il nous a rémunérée, il n'y a pas beaucoup d'anciens bordelais. Et je trouve que ça serait peut-être bien de s'entourer
d'anciens bordelais. On en a tout prévu pour l'instant, d'accord. On suivra ça, bien évidemment. Sur RMC, allez, place à présent à la vie tranchée de François Manardeau. Jingle.
Et on se disait, est-ce qu'il peut y avoir un grain dans le sable? Est-ce que ça peut un grain de sable, pardon. Tu vois, ils m'ont passé toutes mes fautes de français les 3 dernières années. Il peut y en avoir quelques-unes. Hein.
Sujet, verbe, complément, François. Je te l'ai déjà dit. On va donc parler d'Olivier Giroud, également de Stéphane Guivarch. Ont-ils des points communs, mis à part le fait d'être champion du monde sans avoir marqué de but? Alors, ton lancement, c'était le suivant. Stéphane et Olivier sont sur un bateau. Qu'est-ce qui se passe ensuite?
Qui est-ce qui tombe à l'eau? C'est Stéphane qui tombe à l'eau, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, puisqu'il vend des piscines. J'ai écouté l'avis de Adil Rami, je crois que c'était hier, qui disait, en gros, Olivier, il s'est défoncé pour le groupe, il a joué collectif sur les 7 matchs, ok, il a pas marqué de but, mais il a été d'une aide précieuse, bref, si on comprend pas son jeu, on comprend pas le foot.
Bon. Il fait de l'unanimité au sein de l'équipe de France, hein, Olivier Giroud.
Mais pas qu'au sein de l'équipe de France, mais tu vois, voilà, c'est ça, je trouve aussi, Christophe et Sam, par rapport à ta remarque, il fait l'unanimité au sein de l'équipe de France, Olivier Giroud.
Non, mais il fait l'unanimité pour moi aussi. Hein, mais
c'est-à-dire que,
comme tu parlais d'Adil Rami,
on est quelques-uns, on peut dire. Non, mais évidemment, il est discutable comme n'importe quel joueur, presque. Mais il est tellement discuté, tellement critiqué. Et on a fait un parallèle cet été, que je comprends. Stéphane Guivarch, regardez. Champion du monde, il en plante pas un. Olivier Giroud, champion du monde, pas un seul but.
Petite différence quand même, François, Stéphane Guivarch, il n'a pas joué tous les matchs hein, en 1998. Il se blesse lors
du
premier match
à Marseille. Il n'en joue pas 7, mais je pense qu'il en joue au moins 4. Moi-même, je pensais qu'il n'en avait pas beaucoup joué, mais je pense qu'il fait au moins 4 matchs. Il avait le droit de marquer quelques buts, et en plus, en finale, il a quelques très très belles occasions. Maintenant, on en fait cette comparaison. Adil, hier, et moi j'aime beaucoup écouter Adil.
Guivarch me glisse.
6 matchs, tu vois, j'étais même en dessous. Moi j'aime beaucoup Adil parce qu'il me fait marrer, mais il est aussi intéressant quand il parle de foot. Mais qu'on le lâche un peu, Olivier Giroud, qu'on arrête une bonne fois pour toutes de faire de ce gars un international 80 sélections, qui aurait sur ses 80 sélections plus d'une majorité de sélections de complaisance.
31 buts en 79 sélections. Maintenant, c'est le quatrième meilleur buteur de l'histoire des Bleus, Olivier Giroud.
Christophe, maintenant, ce Olivier Giroud, on peut juste le critiquer quand il fait un mauvais match et dire, c'est pas mal quand il est efficace, quand il est bon. Mais qu'on arrête, je trouve, toujours de le ramener à, c'est pas un bon footballeur, il mérite pas sa place. Et Stéphane Guivarch, qui était un bon footballeur, qui a vécu une période internationale beaucoup plus courte que celle d'Olivier Giroud. Stéphane Guivarch, c'est 14 sélections. Tu imagines le mec, 14 sélections, et sur ces 14, il est champion du monde. Un but en amical contre l'Afrique du Sud. Plus grand monde s'en souvient. Sinon, parce que c'était la première sélection de Thierry Henry, d'ailleurs, au passage. Donc c'est un maigre bilan en équipe de France. En plus, après le titre de champion du monde, il se perd un peu entre Newcastle, les Rangers, puis il revient en France, et puis c'est la fin de sa carrière. Mais Olivier Giroud, c'est pas le meilleur attaquant du monde, ça ne le sera jamais. Il sera pas dans le top 5 des attaquants, des meilleurs attaquants, il ne le sera jamais. C'est juste dans cette équipe de France qui, je trouve, a mis définitivement de côté ce football français un peu champagne pour avoir un football plus dans l'abnégation, plus dans des valeurs collectives où chacun défend, chacun met le mort aux dents pour que cette équipe de France soit efficace, soit un monstre de sang-froid, et ça nous a rapporté un titre de champion du monde, faut pas faire la fine bouche, avec cet Olivier Giroud là. Donc c'est parallèle entre Guy Varche, entre il mérite pas sa place, un autre la mériterait, tiens il joue au Real Madrid d'ailleurs. Voilà, qu'on arrête une bonne fois pour toutes, je trouve, moi en tout cas, ça me saoule, il la mérite mille fois sa place en équipe de France, il sera jamais ballon d'or, je pense qu'il le sait, il sera pas non plus soulier d'or, il doit le savoir aussi, mais mille fois, oui, mille fois, il a sa place en équipe de France et j'espère qu'il la gardera.
Sam, ton avis, tu as été attaquant, comment tu vois ce débat donc autour de Olivier Giroud, un attaquant, donc ça doit marquer, mais ça peut être également très utile à l'équipe sans forcément scorer.
Non mais, et surtout les vainqueurs ont toujours raison quelque part, maintenant qu'il est champion du monde, qu'est-ce qu'on peut lui dire? C'est vrai que son jeu pour certains n'est pas forcément très académique, maintenant pour d'autres, il y en a d'autres qui aiment bien ce style de joueur là dans les années 80, c'est vrai qu'il a plus le style d'un joueur des années 80 parce qu'on en a vu beaucoup, des joueurs qui avaient un plus ou moins ce gabarit-là, et qui étaient plus ou moins des piliers, des points d'appui devant pour certains joueurs qui avaient une faculté à beaucoup plus prendre les espaces après avoir dévié le ballon. Maintenant, effectivement, c'est, voilà, et je veux dire, on aime quand même les joueurs qui se retroussent les manches et qui vont au contact, qui vont au charbon.
Pas l'enlever, hein.
Voilà, pour rejoindre un peu François, on a vu le premier match quand il était pas là. On a vu les difficultés quand même de l'équipe de France. Ça manquait quand même de présence dans la surface de vérité, quoi. Il n'y avait pas forcément dans les centres. On a vu certains ballons qui manquaient évidemment la présence vraiment d'un neuf. Donc maintenant, quand il est rentré dans l'équipe, on a tout de suite vu la différence. L'équipe de France on a vu une équipe de France qui se procurait plus facilement des occasions avec lui.
Après, il l'a déclaré, pardon François, je te donne la parole après. Après la première phase, il a déclaré, si je ne dois pas marquer de but, mais qu'au final on est champion du monde, je serai le plus heureux des hommes.
Mais de manière égoïste quand même, quand on est avant-centre.
Oui, tu y penses. Non, mais évidemment, tu as envie de planter. C'est ta bouffe.
Bien sûr.
Et tu sais que c'est pas mal. Enfin, le mec qui dit ça, l'attaquant qui dit ça, qui arrive à mettre son ego de côté pour dire voilà, et moi je suis quand même là à 100% pour l'équipe plutôt que pour mes stats, chapeau bas. Après, une chose que je voudrais dire, parce que je réagis à une remarque que fait Sam par rapport à ces attaquants des années 80 ou années 90, il y a une chose aussi inconsciemment ou consciemment qu'on reproche à Olivier Giroud par rapport à nous et notre façon d'observer le football français, c'est que il appartient pas au canon de la formation française.
Ah, il s'est révélé sur
des attaquants racés, hein. rapides. Qui très facile, balle au pied, physiquement aussi, qui ont quelques atouts. C'est le mec qui est le peintre en bâtiment face à l'artiste, si tu veux,
l'architecte.
Et donc nous, un peu français,
sans vouloir lui faire injure, il est un petit peu besogneux quand même techniquement, quoi. C'est pas
Benzema. C'est pas lui faire injure.
Ce sera jamais Benzema.
Justement, est-ce qu'il souffre pas
Ce sera jamais
de ce problème avec Thierry Henry. Ce sera jamais Nicolas Anelka. Je pense qu'on l'en a fait souffrir, et beaucoup dans des émissions et dans certains médias, voilà. Mm-hmm. Mais il en a pris son parti. Il faut aussi quand même reconnaître cette capacité qu'il a à faire le dos rond par rapport à toutes ces critiques qu'il s'est pris dans la gueule. Et puis, qu'étaient les critiques, c'est pas seulement tu joues mal, mais t'as pas ta place. En fait, tu mérites pas ta place. Tu prends la place de quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Et le parallèle avec Guy Varche, je trouve qu'encore une fois, ça a participé à dire, regardez. Le champion du monde avec un mec qui a pas planté un seul but. Non, 31 mais... buts, 80 sélections.
En plus, moi honnêtement, Christophe, pourquoi tu veux qu'il se sente diminué par rapport à d'autres joueurs qui ont une technique beaucoup plus fine que lui? Il le sait. Le joueur, en plus, le joueur de haut niveau, il connaît ses caractéristiques. Il sait où il est fort. Moi, pour moi,
c'était quoi tes forces, toi?
Non, mais on parle de
Giroud.
On parle des Giroud.
Non, mais je suis très jeune, je t'ai pas vu.
Non, moi, je l'ai vu. Je t'ai vu marquer un but au Parc des Princes, même.
Ah ouais, tu vois.
Il y a pas un 3-2 pour Paris Saint-Germain et il y a 2-0 pour Nice et tu plantes.
Exactement. Et il y a Giroud, c'est un finisseur. C'est un finisseur. C'est un gars qui est assez adroit. Voilà. Moi, je suis pas sûr que il se sente, qu'il soit jaloux des techniques des autres. Moi, je trouve qu'il a énormément progressé dans ce domaine-là. Il a beaucoup énormément, parce que, vous savez, on parle beaucoup de technique, mais la technique, elle est, c'est grand, la technique. La technique, ça peut être une bonne justesse de remise de tête, ça peut être un bon placement. La technique, c'est très vaste. Et en plus, je peux vous dire, pour revenir à un buteur, il se sent mal quand il marque pas. Ça, c'est clair.
C'est
sa drogue. Ah ben oui. Ça, il est clair que pendant la Coupe du Monde, t'es pas bien parce que tu sens que c'est il te manque quelque chose. Tu sais que tu marques pas, parce que un buteur, pour lui, il a besoin de marquer pour se sentir déjà valorisé auprès de ses coéquipiers et de sentir qu'il aide l'équipe. Quand t'as pas ça, il y a peut-être un manque quelque part. Même si c'est bien que ses coéquipiers le rassurent, que l'entraîneur le rassure de ce côté-là, mais c'est pas un tout.
Après, il a joué à Arsenal, il est à Chelsea. On sait que Diego Simeone apparemment souhaiterait l'attirer à l'Atlético Madrid. Ça veut dire qu'il a des qualités, le garçon, quand même, François.
Oui, mais en même temps, ça doit être quand même frustrant pour lui, parce que
là, oui, pour la Coupe du Monde, c'est être frustrant.
C'est frustrant pour lui, c'est que il est quand même champion du monde et ça reste pas un joueur que tout le monde court après. Quoi. Les clubs ne courent pas spécialement après lui pour le mettre en tant que numéro 9 titulaire. Quoi. Ça va être dur.
Parce qu'il a un certain profil, quand même. Ça.
Oui.
Après, il a un certain profil, c'est le profil de ce joueur qui est un point d'appui, qui s'est très bien remisé aussi, qui est bon, très bon dos au but, qui a des qualités de finisseur. Elles sont pas celles de Cavani, mais c'est un très bon joueur. Merci. On arrête de toujours penser que oui, mais finalement il est médiocre. Non, il peut faire des mauvais matchs, il peut en faire des bons. Merde, c'est un très bon joueur. Maintenant, il y a aussi une chose par rapport à Olivier Giroud et par rapport à certains attaquants de profil un peu franco-français, c'est que si ces joueurs qu'on a connus, qu'on a eu ou qu'on a encore un peu, qui vont à 2000 à l'heure, balle au pied, qui ont des qualités de dribble et athlétiques, ils feraient le travail de Giroud. Alors là, exceptionnel. Ah oui, allez, ils ne le font pas.
Allez, pour ouvrir le débat, c'est pas leur style, c'est François, on va accueillir au 32-16 Cédric. Allez, salut Cédric.
Salut.
Alors toi, t'es pas trop d'accord avec François, tu trouves que Olivier Giroud est surcoté?
Ah oui, bien sûr.
Bon, on l'a jamais surcoté.
C'est un bon attaquant de Ligue 1. Il a eu sa chance en Arsenal, qui était un club pour moi qui est en pleine chute, quoi. Là, il est remplacement à Chelsea. En équipe de France, on sait pourquoi il a été pris. C'est juste pour ne pas mettre Benzema.
Un petit peu dur, Cédric, quand même.
Pour ne pas mettre Benzema.
Ils ont joué ensemble.
Laurent Blanc commence à le sélectionner avec Karim. Ils jouent ensemble avec Karim.
La Coupe du Monde au Brésil, Benzema et Giroud jouent ensemble. Hein.
Non, oui, c'est pas les sélections de complaisance. Tu penses qu'un joueur, Karim, tu penses qu'un sélectionneur, comme dit les gens, il fait les cadeaux en équipe de France. Il teste, il donne sa chance, mais il fait pas de cadeaux. Sinon, tu gagnes pas avec des joueurs à qui tu laisses croire qu'ils sont là parce que, en fait, ils prennent la place de quelqu'un d'autre. Si tu fais passer ce message, Karim, à un joueur, quelles que soient ses qualités, si tu dis à Mbappé, tu sais, je te prends, mais en fait, c'est quelqu'un d'autre qui devrait être à ta place. Le mec, tu l'envoies à la cave, tu le tues.
Il y a association d'idées avec Karim Benzema, mais c'est Cédric, notre auditeur. Qu'est-ce que t'as pensé de la Coupe du Monde de Giroud? T'as déçu sa Coupe du Monde, Cédric?
Pour moi, Giroud, il est juste victime. C'est juste que, voilà, c'est en attaquant numéro 2, remplaçant de l'équipe de France, je veux bien, mais... Voilà, c'est juste, voilà, il a eu cette chance-là que Benzema soit exclu de l'équipe de France pour avoir sa chance. Et voilà, il a prouvé. Maintenant, quand j'entends tout ce qui se dit après lui, il a marqué 0 but. Benzema en Coupe du Monde au Brésil marque pratiquement tous les buts de l'équipe de France, même si après, voilà, il perd en quart de finale. Et derrière, vous l'avez démonté. Mais comme d'habitude, de toute façon, c'est là le problème. Mon problème avec Giroud, c'est un attaquant de Ligue 1, un bon attaquant de Ligue 1, mais pas plus.
Donc pour toi, sa place en équipe de France et ses 31 buts en équipe de France, sa place est toujours payée. Et ses 31 buts, Cédric, si je te suis, c'est les défenses adverses qui l'ont laissé faire?
Non, c'est les matchs amicaux. Les trois quarts de ses buts sont dans l'ordre des matchs amicaux. Maintenant, je voudrais bien voir où il a marqué, où ça a été important. On a bien vu contre l'Ukraine pour la qualification contre le Brésil. Match aller, on se passe de Benzema. Giroud plante pas. Match retour... Benzema plante, on se qualifie. Maintenant, voilà, je sais que le sujet Benzema, c'est hors sujet, mais ça faussera toujours le débat sur Giroud en équipe de France.
Merci beaucoup à Cédric, en tous les cas, de nous avoir appelé.
On aurait pu continuer avec Cédric.
On va accueillir quelqu'un d'autre au 32-16 qui nous fait le plaisir et l'amitié d'être avec nous. C'est Mehdi. Salut Mehdi.
Salut, Oui, salut tout le monde, vous m'entendez bien
Mehdi. Ouais, on t'entend très bien. Et pour toi, Giroud, c'est une catastrophe technique.
Bah, moi, personnellement, voilà, je suis éducateur. Un attaquant comme ça, je le prends jamais. Lui, ça fait 10 piges qu'en France, on se bat contre ce type d'attaquant. En gros, les catcheurs maladroits. Et là, on se chope un catcheur maladroit. C'est le. Je suis désolé, hein. Je veux pas faire le parallèle, mais je suis forcé de faire. C'est le Benzema du pauvre. Pourquoi ? Parce que les qualités qu'on lui reconnaît aujourd'hui, ce sont les défauts qui ont été ceux de Benzema. À une période, on dit Benzema ne marquait pas, et que par contre, il était trop collectif. Oui, mais c'est pas ce qu'on demande à un attaquant. Et lui, eh ben, il est trop collectif. Il ne marque pas parce qu'il est maladroit. Mais c'est ce qu'on demande à un attaquant besogneux. C'est génial, ça. Ben moi, je vous dis la vérité, je suis scandalisé par ça. Parce que je trouve que c'est pas normal. Le gars ne pue pas le foot, mais on est tous là en train de l'applaudir. Moi, je suis désolé. Et Guivarch, il a fini meilleur buteur du championnat de France pendant au moins, je crois, 2 ans d'affilée avec Auxerre. Il se la donnait, le mec. Il claquait 30 buts par saison.
Giroud aussi avec Montpellier, Mehdi.
Mais Giroud, mais Montpellier, mais attends, c'est un épiphénomène, là, Montpellier. Tu fais très bien. C'est un épiphénomène. Mais est-ce qu'il l'a refait derrière dans les grands clubs? Il a jamais eu sa place. Un vrai attaquant, ça a sa place. Cavani qui est maladroit, eh ben, il a sa place. Voilà. Et Cavani, ce que Giroud fait, il sait faire, hein, Cavani, hein. Sauf qu'il rajoute aussi des appels en profondeur et patati patata. Donc, voilà, Giroud. Eh, c'est quoi, il a une belle gueule d'ange, c'est une petite star, il est beau gosse, il passe bien, c'est ce que vous aimez. C'est le paquet cadeau que vous aimez. Mais à l'intérieur, il n'y a rien.
Mehdi, excuse-moi, c'est ça. Moi, je suis un peu déçu en tant qu'éducateur que tu dévalorises le travail des autres. Je veux dire.
Non, mais
t'es en train de dévaloriser, t'es éducateur, laisse-moi juste. Pardon?
Il est mauvais.
Mehdi,
en tant qu'éducateur, je suis désolé, tu dois pas dévaloriser ça.
Je joue pas sur la fibre éducative, tu sais très bien, pas sur le fait que je suis éducateur pour m'empêcher
Mais bien sûr que si, parce que tu dois.
Mais non, quand t'es éducateur, il y a des joueurs que tu prends pas parce que tu les trouves pas assez bons, pour être franc, pour arrêter d'être hypocrite. Le gars n'est pas bon, il est pas bon.
Mais t'as le droit de te planter en tant qu'éducateur, parce que à part ce que tu nous as expliqué sur des statistiques qui sont celles que tu vois à travers ton prisme, c'est 31 buts en 80 sélections. Et tu sais, tu sais très bien que marquer des buts, mais il joue pas les faits, et encore même va jouer les Féroé, tiens, il joue pas le Saint-Marin toutes les semaines, Olivier Giroud. Que tu préfères Karim Benzema, c'est ton droit. Je vois même pas pourquoi on parle de Karim Benzema, c'est pas le sujet, Karim Benzema.
Écoutez, Benzema, j'en ai rien à faire de Karim Benzema. Tu veux tout savoir, j'en ai rien à faire, c'est pas mon type d'attaquant. Moi, je kiffe les Cavani, les Inzaghi, moi, j'aime bien ces mecs-là. Mais, le problème, c'est que je suis obligé de constater aujourd'hui que les défauts de Karim sont les qualités de Giroud.
Merci beaucoup, Mehdi. En tous les cas, rien,
mais en tant qu'éducateur, ça aurait été bien, le standard. Justement, qu'ils nous disent, voilà, moi, c'est peut-être pas ma tasse de thé, mais de là, en faire un escroc qui est, choisi par Conte, qui est choisi par Wenger, qui a été, c'est vrai, tu l'as mentionné, je l'avais oublié, meilleur buteur du championnat de France, et que Guivarch avait plus de mérite que lui.
Et surtout qu'en équipe de France, beaucoup l'oublient quand même. Giroud n'a jamais fait 13 ou 14 matchs sans marquer en équipe de France quand même. Tu vois, ça aussi, il faut aussi le rappeler quoi.
Voilà. Allez, en tous les cas, le standard 32-16 qui est en train d'exploser. On remercie Mehdi, comme il a été très bon à l'antenne. On lui offre un livre magnifique, champion du monde, la fabuleuse histoire du deuxième sacre mondial des Bleus, un livre deux Christophe, étoiles avec Olivier Giroud. Rapidement, Benoît, un petit point score sur cette première journée de Ligue 2.
Et quelques buts avec New York qui a doublé la mise à Beauvais contre le Red Star 2-0 pour les Niortais. Un partout désormais entre le Gazélec Ajaccio et le Paris FC. C'est Blayac, l'ancien Strasbourgeois, qui a égalisé pour le Gazélec. 3-1 toujours pour Valenciennes contre Auxerre. 1-0 pour Béziers à Nancy. 0-0 entre Clermont et Châteauroux, et entre Grenoble et Sochaux. Lens mène 1-0 à Orléans, et 3 mène 1-0 sur la pelouse de la sélection.
Merci Benoît, une petite respiration et l'after revient immédiatement avec de beaux débats et de beaux avis tranchés également. Ne bougez pas, à tout de suite.
RMC, le super football show, jusqu'à 23h, c'est l'afterfoot, Christophe Plenet.
Il est 21h30, vous êtes sur RMC, c'est l'afterfoot, appelez-nous au 32-16, hein, on vous fera gagner des places pour le match amical entre Chelsea et l'Inter Milan. Ça se passera à Nice, à l'Allianz Riviera ce samedi. Venez participer au quiz donc en fin d'émission, appelez-nous au 32-16, et pour gagner des places, envoyez after par SMS au 7-32-16. François Manardo est toujours là, Samuel Hippoua également, et Benoît Boutron pour nous parler de la Ligue 2. Tout de suite, c'est l'avis tranché de Samuel Hippoua, jingle.
Franchement, c'est encore le mauvais côté des gens, quoi. Je pense que, en fait, c'est comme le chien qui a la rage, quoi.
Il n'a pas la rage ce soir. Samuel Dupois, t'avais envie de nous parler du Ballon d'Or. Alors, est-ce que le Ballon d'Or doit nécessairement revenir à une star, ou alors peut-il récompenser un joueur de devoir, un joueur moins médiatique?
Mais j'aimerais quand même revenir à l'auditeur d'avant par rapport à l'éducateur.
Tiens, parce moi que, aussi, mais c'était ton avis.
J'espère que tous les éducateurs ne sont pas contre lui, parce que si tous les éducateurs sont contre des joueurs qui se battent, qui sont dans l'abnégation, qui sont des battants sur le terrain, effectivement, qui n'ont pas une grande technicité et qu'on les met de côté, ça c'est vraiment pas pour moi des bons éducateurs, je suis désolé de le dire.
Et puis il y a une forme d'hypocrisie aussi. Il y a une vraie forme d'hypocrisie chez certains qui nous font toujours ce parallèle avec Karim Benzema. En plus, je vois pas pourquoi on vient emmerder Karim par rapport à ça. Giroud lui a pas volé sa place. C'est une décision de Didier Deschamps de pas le sélectionner.
On est d'accord.
Quand on nous dit, oui, à la Coupe du Monde, il a moins marqué des buts. Moi, si je suis aussi hypocrite si je suis aussi hypocrite, ça me gonfle. Si je suis aussi hypocrite que, je vais dire qu'il les a marqués aussi contre le Honduras à ce moment-là en Coupe du Monde.
Ah. Allez, on pourrait parler des heures d'Olivier Giroud et de Karim Benzema, mais on parle de Ballon d'Or, ça. Mais toi, tu en as marre de voir des Messi, des Cristiano Ronaldo récompensés. Voir un N'Golo Kanté, par exemple, récompensé, un joueur de devoir place le collectif au-dessus de tout.
Exactement. J'avais envie de parler du Ballon d'Or parce que maintenant que la Coupe du Monde est finie et qu'on connaît le vainqueur, on veut savoir qui sera le prochain lauréat du Ballon d'Or. Et maintenant, on voit que les joueurs aussi sont impatients d'avoir de savoir qui sera lauréat. On a vu Mbappé qui a déjà sorti sa petite liste. Il y a nous aussi, les amateurs de football que nous sommes. On veut savoir aussi. On commence à faire aussi nos petits pronostics. Pourquoi lui? Pourquoi pas lui? Pourquoi lui mérite plus qu'un autre? Et il y a l'autre catégorie des personnes qui aimeraient voir justement pas forcément les joueurs qu'on attend déjà. Moi, je suis. J'aimerais justement voir, parce que j'en ai assez de voir certains joueurs qui confisquent le Ballon d'Or pendant une dizaine d'années. D'ailleurs, depuis sa création en 1956, il faut savoir ou le rappeler que ce titre, à l'origine, était attribué au meilleur joueur disposant d'une nationalité européenne évoluant dans un championnat européen. C'est pour cela que des Maradona, des Pelé, voire des Kempes n'ont pas eu le Ballon d'Or. Puis en 95, ça a été justement le fait que il y avait plus de distinction de championnat ni de nationalité. C'est pour cela qu'on a vu le grand Mister George Weah l'avoir.
Premier Ballon d'Or africain.
Exactement. Maintenant, moi, c'est comme je le dis. Moi, j'ai envie de voir qu'il n'y ait plus de bannis. C'est vrai, François, il y a eu quand même pas mal de bannis. Il faut le dire. Il y a eu des Ribéry, il y a eu des Eto, il y a eu des Drogba, des Iniesta, Xavi, qui auraient vraiment mérité d'avoir ce Ballon d'Or. Moi, je suis pour, honnêtement, que tout ça s'arrête. Vraiment que tout ça s'arrête, que ça soit pas forcément le joueur qui met le retourné acrobatique, qui a le sourire ultra bright californien, qui a forcément le Ballon d'Or. Moi, je veux voir qui est, pourquoi pas, des N'Golo Kanté, des Pavard, des Griezmann.
T'as plutôt un beau sourire, toi, quand même.
Mais je suis plus ballon. Ou des Loris, éventuellement, qui peuvent prétendre à ce Ballon d'Or. Moi, franchement, je suis pour qu'il y ait un ou deux joueurs qui confisquent ce trophée pendant des années. Le football, l'équipe de France l'a montré, c'est un collectif, c'est une équipe qui a joué ensemble pour pouvoir gagner ce trophée qui est la Coupe du Monde. Donc à partir de là, quand on voit ça, on voit que les individus isolés ne peuvent plus seulement avoir le trophée du Ballon d'Or pour eux. Voilà.
Après, c'est une récompense individuelle dans un sport collectif, donc quelque part c'est déjà un petit peu déjà tronqué, pernicieux, on va dire. François, on va toujours récompenser l'avancée qui va mettre 40 pions plutôt que le milieu de terrain.
C'est une récompense, tu vois.
Qui a fait 40 passes décisives.
J'ai eu un lapsus, c'est une récompense individuelle.
Non mais d'accord, je suis d'accord avec ça, mais... Moi, j'ai envie qu'on mette des valeurs aussi, qu'on mette des valeurs ailleurs. Moi, j'ai envie que certains joueurs, effectivement, comme l'éducateur, là, qui nous disait, là, que les joueurs, pour lui, qui ne sont pas assez techniques, qu'on les mette aussi en valeur. Parce que le football, c'est pas que les joueurs techniques. Le football, c'est aussi plaisant. Moi, je prends plaisir à voir quelqu'un qui se bat. Je me rappelle, par exemple, c'est hors football, mais un mec comme Jean-Pierre Rive au rugby, quand vous avez vu le
casque d'or.
Voilà, moi, c'est plaisant à voir ça. C'est tout aussi beau. Voilà, je veux qu'on mette, que les jeunes générations se disent, ah ben peut-être je suis pas technique, mais on pourra valoriser le fait que je me batte. C'est important aussi ça pour eux. Voilà.
Le Ballon d'Or, dans son évolution, il a une période qui est une période mauvaise, je trouve, par rapport à la formule qui permet de l'attribuer. C'est lorsque France Football, et donc qui est le créateur du Ballon d'Or, s'acoquine à la FIFA et qu'on intègre dans le jury les sélectionneurs et les capitaines de toutes les sélections dans le monde. À partir de là, il s'est passé quelque chose. Alors, il s'est passé quelque chose que on n'avait peut-être pas prévu, c'est que les capitaines des sélections avec les sélectionneurs, ils vont plutôt se mettre de mèche pour favoriser soit un joueur sud-américain, soit un joueur européen. Et coïncidence, on a traversé aussi, on y est encore quand même, hein, une période quasi unique, voire à mon sens unique dans l'histoire de ce sport, c'est que tu as deux monstres absolus. Au même moment, la seule période où on a un peu connu ça, c'est le début des années 70, sauf qu'ils jouent pas du tout au même poste, c'est Johan Cruyff face à Franz Beckenbauer. Sinon, il y a toujours eu un joueur offensif, Samuel, pour des raisons qu'on peut comprendre, et tu as été attaquant.
Le dernier défenseur, c'est Cannavaro 2006.
Offensif quand même, 9 fois sur 10 ou 8 fois sur 10 qui prenait l'ascendant. Le vote, il est normalement dévolu aux journalistes. France Foot a arrêté la collaboration avec la FIFA parce qu'ils avaient compris au bout d'un moment que c'était Messi, Ronaldo, Ronaldo, Messi, Messi, Ronaldo, etc. Donc, même si ces deux-là dominent de la tête et des épaules leur sport, France Foot a repris la main pour laisser ce vote aux journalistes parce qu'il y a eu quand même un vote qui était un vote un petit peu sulfureux où le collège des journalistes avait élu Franck Ribéry. Alors ok, Sam, encore un joueur offensif, mais c'était Franck Ribéry. Et puis, on a eu un retard sur l'arrivée des votes des sélectionneurs et des capitaines, et c'est arrivé, je crois, pour Messi, et Franck finit troisième. Alors que je pense qu'il le méritait.
Il le méritait.
Aujourd'hui, moi j'aime beaucoup ce que tu dis, Sam, mais c'est compliqué parce que les journalistes qui votent, ils votent aussi par rapport à une perception que nous, on peut avoir, et que le grand public a. C'est le joueur offensif, quand même, qui a un côté plus glamour. Évidemment, mille fois, un N'Golo Kanté, si en plus il finit l'année 2018 en trombe avec Chelsea, il le mérite. Beaucoup d'autres joueurs le méritent, mais c'est tellement plus... comment dire, t'as plus envie d'acheter ton billet finalement quand t'as un Cristiano Ronaldo qui te fait ce retourné exceptionnel à 33 ans au Juventus Stadium que le N'Golo Kanté qui va gratter 10 000 ballons et qui va intercepter 1 million de ballons dans les pieds d'un milieu ou d'un attaquant.
Justement, François, on va accueillir au 32-16 Evan qui a envie de parler de Cristiano Ronaldo. Salut Evan, bienvenue.
Salut l'acteur, salut les amis.
Salut. Bonjour. Evan.
Alors Ronaldo, pour toi, doit avoir le Ballon d'Or cette année, ça serait son sixième. Pour quelle raison, selon toi?
Alors pour moi, c'est simple, parce que Ballon d'Or, pour moi, ça doit récompenser le meilleur joueur du monde, et surtout une saison. Qui est certes, le Real a fait une très bonne saison, mais Cristiano Ronaldo reste le meilleur joueur du monde. Et je sais que Samuel, ça fait 2 semaines qu'il médite pour Griezmann, mais malheureusement, le meilleur joueur du monde... Parce que pour moi, le Ballon d'Or, c'est le meilleur joueur du monde. Et ça doit être Ronaldo ou Lionel Messi quand il est bon.
Mais il n'a pas été le cas. Il y a juste une chose qui est fausse par rapport à ce que tu nous dis. En revanche, ça ne récompense pas une saison. Le Ballon d'Or, il est à cheval sur 2 saisons. Et les années impaires, c'est 2 saisons plus une phase finale. Donc ça fait 3 éléments à prendre en compte, et non pas un. Une saison, elle est sur... je vais pas le rappeler. Hein, elle est sur 2 années. Et donc le Ballon d'Or, c'est... une première partie de saison, une phase finale quand on est une année impaire, et une deuxième partie de saison.
Oui, non, mais le meilleur joueur du monde, j'entends, Evan, mais c'est surtout aussi en fonction de la saison. Là, on est en saison de Coupe du Monde, fatalement.
Donc fait la deuxième phase qui est terminée. On va attaquer la troisième et dernière. C'est
ceux qui vont juger vont forcément prendre en compte les résultats de la Coupe du Monde. Enfin, on peut l'imaginer.
Oui, c'est logique. Sur la saison, par exemple, quand je vois les noms qui sont accolés pour être là pour le Ballon d'Or, c'est compliqué. Par contre, Griezmann, c'est une très bonne saison, mais par contre, mis à part Griezmann, je vois pas qui, sur une saison complète, même en comprenant la Coupe du Monde, peut-être Modric, sinon je vois pas qui vraiment a été meilleur que Cristiano Ronaldo sur la continuité, en fait.
Ah, regarde, Mohamed Salah, il fait une saison de dingo avec Liverpool. Avec l'Egypte, ça s'est mal passé, donc, à la Coupe du Monde. Et
peut-être que...
Il peut mettre un petit billet, mais je pense qu'il n'aura pas le Ballon d'Or.
Oui, d'après, il n'aura pas, mais peut-être que sur la fin 2018, il peut tout exploser de nouveau en Ligue des Champions. Mais ce sera la phase de poule, hein. Elle est moins sexy que la deuxième partie.
Ah, le favori, non, on est d'accord, ça reste Griezmann, non? Tu penses pas qu'Evan mériterait, qu'Antoine Griezmann, Evan, pardon, mériterait d'avoir le ballon d'or? Il gagne la Ligue Europa avec l'Atlético. Il est champion du monde avec l'équipe de France. 4 buts, 4 passes décisives si je dis pas de bêtises. Ça serait
Il est dans les trois.
Un beau ballon d'or, non? Tu crois pas?
Oui, mais bon, quand même, je reste sur ma position et je donnerai quand même à Cristiano Ronaldo. Mais après, c'est parce que je suis pas parti du collège des journalistes. Et aussi juste pour Salah, ça va être dur pour lui, malheureusement, à cause de l'Égypte, il va finir pas plus haut qu'à 4ème place, je pense.
Ok, merci beaucoup Evad, en tout cas, de nous avoir appelé au 32-16, tu reviens. Quand tu veux, allez, on va faire une petite parenthèse noble art dans l'after. On va parler de boxe. On va rejoindre au Canet Florent Vautrin pour la réunion No Limites de boxe. Donc au Canet avec un plateau magnifique. Bonsoir Florent.
Ouais, bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Effectivement, un plateau magnifique avec en point d'orgue de cette soirée organisée par Asloum Events, l'entreprise de boxe de Brahim Asloum. Et bien, ce championnat du monde espoir WBC entre Christian Mbili, le français, et le mexicain Ramon Anguinaga, un titre donc de champion du monde espoir, c'est pas rien. Il faudra pour cela que Christian Mbili soit aussi fort que ce qu'il est sur les dernières années et sur les derniers combats, 10 combats, 10 victoires, 10 KO face à lui. C'est le premier gros test de sa vie de boxeur. Ramon Anguinaga, 25 ans, droitier, 13 combats, 13 victoires, 10 KO, gros combat en perspective. Et puis on attendra aussi d'ici un ou deux combats Dylan Chara, le jeune français, 24 ans, ici le canois de naissance, qui va affronter Lies Chaibi dans un combat franco-français très intéressant. Et il y a de cela 10 minutes, on a eu affaire un combat international entre le tout jeune français Louis Toutain, 20 ans, la future star montante de cette boxe face au croate Bosco Mizic. Louis Toutain, c'est pas compliqué, 10 combats, 10 victoires, 9 KO, et ça fait 11 combats, 11 victoires, 10 KO, puisqu'il a gagné au bout de la deuxième reprise. Il a mis 3 fois son adversaire croate au sol. On se donne donc rendez-vous d'ici quelques minutes pour le match, le championnat du monde espoir Mbili Christian contre Ramon Anguinaga, ici pour Asloum Events, pour le No Limit de Brahim Asloum à Cannes.
Une réunion de boxe. Merci beaucoup Florent, à suivre en direct sur RMC Sport 1. Rapidement à Benoît, la Ligue 2, on approche du terme des rencontres. Est-ce que les scores ont évolué?
Un score a évolué, effectivement. Le Red Star a réduit l'écart contre Niort. Le Red Star était mené 2-0, 2-1. Désormais, on rentre dans les 5 dernières minutes sur tous les matchs.
Allez, appelez-nous au 32-16 pour réagir sur tous ces résultats, donc avec cette première journée de Ligue 2. Si vous êtes supporter de Niort, Lens, Auxerre, le PFC, Sochaux, Béziers, Nancy ou encore Ajaccio, eh bien appelez-nous au 32-16. On en parle juste après la pause, la pub sur RMC. À tout de suite.
RMC, le super football show, jusqu'à 23h, c'est l'After Foot, Christophe Plenet.
Il est 21h47, vous êtes sur RMC, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. C'est l'After Foot avec Samuel Hippo, avec François Manardo et avec Benoît Boutron. Dans un instant, les résultats complets en Ligue 2. C'était la première journée aujourd'hui, mais je vous rappelle que vous pouvez jouer avec nous au quiz en fin d'émission. Pour cela, eh bien, il vous suffit de composer le 32-16 ou d'envoyer After par SMS au 7-32-16. On vous fera gagner également deux places pour le match amical entre Chelsea et l'Inter Milan. Ça se passera demain à l'Allianz Riviera à partir de 20h45. Benoît, les dernières secondes donc sur toutes les pelouses de Ligue 2 à l'occasion de cette première journée.
Et un deuxième but à l'instant pour Lens qui double la mise sur la pelouse d'Orléans, 2-0, but signé Jean Reckner Bellegarde. Toujours 1-0 pour Grenoble contre Sochaux, 1-0 pour 3 sur la pelouse de l'AC Ajaccio, 0-0 entre Clermont et Châteauroux, 2-1 désormais pour Niort à Beauvais contre le Red Star, 1-1 entre le Gazélec Ajaccio et le Paris FC, 3-1 toujours pour Valenciennes contre la JOCR et 1-0 pour Béziers, le promu sur la pelouse de Nancy.
Déjà, messieurs, des résultats étonnants. C'est terminé officiellement donc à Beauvais où Niort s'impose donc 2-1 sur la pelouse du Red Star. On sait que le Red Star n'était pas autorisé cette saison à jouer à Bauer. Le stade n'est pas aux normes. Première à défaite donc pour le Red Star dans cette saison 2018-2019 de Ligue 2.
Oui, après, on est tous conscients que c'est la première journée, donc... Je pense pas que
ceux qui ont gagné seront devant, ceux qui ont perdu seront derrière.
Non, mais tu vois, une première journée, on a vu quelques buts, on n'a pas vu les matchs, donc
l'analyser cette journée, c'est un exercice périlleux ou hypocrite.
Non, mais oui, François, il a raison. Les équipes sont encore en rodage. Je crois que tous les réglages ne sont pas encore faits au niveau des équipes. Il faut arriver à faire encore la cohésion.
C'est dingue, hein, Samuel. L'équipe de France est championne du monde depuis 12 jours. Ouais. Et la Ligue 2 reprend déjà.
Ah ben parce que la Ligue 2 n'est pas concernée. Hein.
J'entends bien. Il y a eu un seul joueur en Ligue 2 qui a été sélectionné à l'équipe de France. Un seul dans toute l'histoire, t'imagines?
Et tiens, François, qui sera le futur Giroud en Ligue 2?
Qui sera le futur Giroud en Ligue 2? Je vais te redire ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on arrête de lui casser les couilles à Giroud. Et vous vous souvenez qui était le joueur en Ligue 2 sélectionné à l'équipe de France? En D2 à l'époque. C'est un joueur très connu. Super connu. Non, mais on fait un quiz à la fin de l'émission, mais j'ai le droit de poser une petite question. Il a beaucoup, beaucoup joué à Nantes et il jouait au Matra Racing quand il a été sélectionné. Allez, je vous ai tout dit, là, les gars.
À Nantes.
Merci Christophe Planet. Merci Samuel Ipoa.
Tousseau, Biba.
Ben. Non. Je réfléchis, une légende du FC Nantes.
Une légende du FC Nantes.
Ah, non, c'est pas.
Henri Michel, c'est trop vieux. Matra, époque Matra.
Ah là, c'est terrible, et même Cyprien, il n'arrive pas à t'aider. Il m'a dit Toko. Il m'a dit Toko.
Ah, Bossis. Ah, oui. Bossis. Ah. Non, Loco, il a jamais.
Ah ouais, qu'est-ce que ça va être la qualité du quiz après?
Allez, d'autres résultats, Benoît, non, ça se termine petit à petit les pelouses de
Next, comme on dit dans le jargon, François, avec Nancy qui est en train de s'incliner sur sa pelouse au stade Marcel Picot face au promu biterrois Béziers, qui
c'est un vrai exploit,
de plein
ça,
pied dans cette Ligue 2.
Eh oui, Béziers, c'est leur premier match pour les biterrois en Ligue 2, vrai exploit effectivement. Et vous parliez du Real Star où ils vont jouer à Beauvais toute l'année, ce sera quand même pas un cadeau d'aller jouer à Beauvais. Il y a deux ans, ils jouaient à Jean-Bouin, c'était pas non plus un cadeau parce qu'ils n'arrivaient pas à remplir le stade. Mais là, Beauvais, c'était peut-être pas forcément la meilleure solution. Ils avaient trouvé un accord à un moment avec Colombes, ça s'est pas fait. Mais c'est plus compliqué. Et là, un autre match qui se termine à l'instant, un partout entre le Gazélec Ajaccio et le Paris FC.
Ouais, on va accueillir au 32-16 Mounir, supporter lensois. Salut Mounir.
Salut tout le monde.
Salut Mounir. J'imagine Mounir, tu es ravi de cette première victoire de tes 100 et or, donc sur la pelouse d'Orléans 2-0.
C'est un véritable soulagement parce qu'on attendait ça avec impatience, la reprise de la Ligue 2, la restructuration faite par l'actionnaire principal et puis du dirigeant depuis quoi, c'est un travail en amont depuis plus d'un an, et puis le choix du nouveau coach qui était très courtisé notamment par des clubs de Ligue 1, ça fait vraiment plaisir d'avoir des points assez intéressants et très structurés.
Le Racing Club de Lens sera l'un des favoris cette saison en Ligue 2 et on a tous hâte, amoureux du football, de revoir les Lensois dans l'élite. Vous êtes d'accord avec moi ou pas?
Ah oui, non mais complètement. D'ailleurs, j'ai eu Eric Roy au téléphone il y a quelques semaines de ça.
Il va bien?
Il va bien. Il était surtout content du travail, content du groupe. Ils veulent lancer beaucoup de jeunes joueurs cette année, donc apparemment tous les feux sont ouverts pour pouvoir faire revoir Lens, pourquoi pas dans l'élite l'année prochaine.
Mounir, tu la sens bien cette saison,
moi,
même si c'est que la première journée.
En fait, quand il a été choisi Eric Roy, et au final il a fait un travail mais plus que remarquable. Déjà en choisissant Philippe Montagnier par son expérience, que ce soit à l'étranger, à la Sociedad, et ce qu'il a pu faire, que ce soit à Boulogne, à Valenciennes notamment. Et en plus de ça, sur le recrutement qui était assez stratégique et très intéressant, où il y avait une partie expérimentée avec Mesloub, Jean-Louis Deca et Jean Tara. Une partie à la fois ambitieuse, Thierry Ambrose, hein, c'est ça?
Oui, c'est
ouais,
ça.
Ambrose.
Ouais, Thierry Ambrose, qui était même sollicité par Bordeaux et Toulouse. C'est toujours flatteur pour un club comme Lens qui reste quand même un club de Ligue 2 depuis plusieurs années. Radonovic, je sais pas si je l'ai bien prononcé. Apparemment, c'est un joueur très prometteur en Serbie. Ariel Mendy, Eidara aussi, qui était à l'arrière gauche de Newcastle, même s'il jouait pas tellement ces dernières années. Et des joueurs qui connaissaient super bien la Ligue 2. Comme Arthur Gomis, 111 ou El Adiba.
Vous avez accueilli l'AS Saint-Etienne en match amical à Bollard il y a 10 jours. Il y avait 15 000 personnes. On imagine qu'il y aura autant de monde tout au long de la saison en Ligue 2. Vous y croyez toujours? Vous êtes toujours derrière cette équipe du RC Lens dans le
chemin? Ce club reste quand même incroyable et magique. On était sur une moyenne cote 25 000 ou 26 000 l'an passé, alors que les matchs étaient plus que catastrophiques. On se faisait chier, mais ça, à chaque match. Et puis à chaque fois, c'était, on apprenait tous les jours des nouvelles, des mauvaises nouvelles en fait, sur le plan extrasportif, malheureusement, que ce soit avec Zoubir, Douchez, Djadjé. Bon,
bonne nouvelle, Mounir, c'est officiel, c'est terminé, victoire 2-0 donc de Lens à Orléans.
Ouais, ça fait plaisir. Non, mais ça fait plaisir. Et puis en plus de ça, ouais, le soutien du public qui reste quand même primordial là-dessus. Où là, ils sont déjà à 15 000 abonnés sur une capacité de 35 000. C'est fantastique.
Merci beaucoup Mounir en tous les cas de nous avoir appelé au 32-16.
Bonne soirée.
Faites comme Mounir, hein, appelez-nous au 32-16 pour nous parler de vos clubs. On parlait de Lens, Benoît, un autre club du Nord, Valenciennes, qui réalise une belle performance pour cette première
journée. C'est allé très vite, hein. Il y avait 3-0 pour Valenciennes contre Auxerre au bout de 27 minutes. Finalement, victoire 3-1. C'est terminé un petit peu partout. Le seul match qui est encore en cours, c'est Nancy-Béziers. Il y a 10 minutes de temps additionnel. Il y a eu un carton rouge pour Nancy. Il en reste 6 à disputer. Je vous donne donc les scores sur les autres matchs. Grenoble qui bat Sochaux 1-0.
J'ai compris si ça distribuait, moi.
Non. 1-0 pour 3 sur la pelouse de la Ajaccio. 0-0 entre Clermont et Châteauroux. Donc Niort est allé gagner à Beauvais contre le Red Star. 1 partout entre le Gazélec et le Paris FC. Et donc oui, cette victoire 3-1 de Valenciennes contre la Géosserre.
On rappelle que demain à 15h, Lorient accueillera Le Havre. Et lundi, en clôture de cette première journée, eh bien Brest accueillera Metz. Vos favoris rapidement, messieurs, même si c'est un peu tôt, c'est que la première journée, mais il y a quand même des équipes qui se décident. On peut penser que 3 et Metz qui descendent de Ligue 1 en Ligue 2 sont armés quand même pour remonter immédiatement.
Un peu plus 3 que Metz.
3 qui s'imposent à Ajaccio, hein, même si c'est à huis clos. C'est déjà une première grosse performance de la part des Aubois.
Mais ça reste la première journée, je disais tout à l'heure. Maintenant, moi j'aimerais bien mettre une petite pièce, tu vois, sur le PFC qui a raté la montée. Bon, ils étaient quand même dans les prétendants. Après, ils ont pas réussi à être aussi réguliers, évidemment, qu'ils le souhaitaient. Mais voilà, outsider pour moi, le PFC.
Allez, on accueille François au 32-16. Salut François.
Salut.
Oula,
elle a envie, François.
Ta joie, t'es supporter de Grenoble, et Grenoble a gagné. Hein. Grenoble vient de s'imposer 1-0 face à Sochaux. T'es heureux, j'imagine, pour le retour des Isérois en Ligue 2.
C'est un bon premier match. On voit que c'est le premier match de la saison. Ça a été compliqué, mais une victoire pour lancer la saison, c'est toujours pas mal.
Ouais. C'est quoi l'objectif de Grenoble cette saison?
Je pense que déjà, dans un premier temps, c'est de s'installer bien en Ligue 2, se maintenir cette année. Et puis après, on verra au fil de la saison s'il y a moyen d'accrocher plus. On ne sait pas trop que vaut le groupe pour le niveau de Ligue 2 quand même, parce que c'est beaucoup d'anciens joueurs de Ligue 1 ou des joueurs des anciens joueurs de réserve de Ligue 1, beaucoup de joueurs un petit peu repêchés à droite à gauche. Faut voir par rapport au niveau Ligue 2 ce que ça vaut.
Merci beaucoup François en tous les cas de nous avoir
accueilli. Merci, bonsoir.
Au 32-16 et bonne saison. Rapidement, un petit détour de nouveau par le Canet, la réunion de boxe No Limites avec Florent Vautrin sur place.
Ouais, la soirée va se terminer sur les deux plus gros et importants combats de ce soir. Donc Dylan Chara qui affrontera Lien Shaibi là d'ici quelques secondes. Et puis le championnat du monde espoir, Mbili Christian contre Ramon Aguinaga, le Mexicain. C'est tout de suite, c'est sur RMC.
Merci beaucoup Florent. Ouais. Benoît, on récapitule les résultats complet de cette première journée avec un deuxième but à Nancy qui vient d'être inscrit par le promu Biterrois.
Béziers mène 2-0 effectivement à Nancy, c'est la surprise de la soirée. On vous rappelle la victoire de Lens à Orléans 2-0, victoire de Grenoble contre Sochaux 1-0, 1-0 également pour 3 sur la pelouse de l'AC Ajaccio, 0-0 entre Clermont et Châteauroux, 2-1 pour Niort contre le Red Star, 1 partout entre le Gazélec Ajaccio et le PFC, 3-1 pour Valenciennes face à Auxerre. Effectivement, demain Lorient-Le Havre, un beau match à suivre, et puis lundi soir Brest face à Metz.
Dis donc, il y a un truc qui nous a échappé à Nancy. 10 minutes d'arrêt de jeu.
C'est rare. Il y a eu une exclusion.
L'exclusion a dû peut-être très 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 mal se passer.
Ça va au niveau de tes paris sportifs, Benoît, t'es bon pour.
Écoute, t'as été meilleur que moi, je crois, sur cette soirée de Ligue 2. Je te félicite d'ailleurs.
Merci beaucoup, Benoît, en tous les cas, d'être venu nous voir dans la
fleur.
Une petite respiration. Et on revient avec François Manardo, avec Samuel Ipoua pour parler notamment de l'AS Saint-Etienne. Appelez-nous au 32-16. A tout de suite.
RMC, le super football show, l'after foot.